Bienvenue sur la chaîne du podcast Éco-Mouvement,
le média de sensibilisation sur les sujets liés à la transition écologique, sociale et solidaire.
Tous les lundis, on te propose d'aborder un sujet lié à l'environnement.
Avec des invités inspirants, des scientifiques ou encore des entreprises engagées.
On t'embarque pour la saison 3.
Bonne écoute.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Jeanne-Louise et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la transition écologique dans le monde du sport. Alors si certains grands événements sportifs font souvent la une, c'est rarement pour parler de leur climatisation excessive, des quantités considérables d'eau utilisées pour l'arrosage des terrains ou encore des émissions polluantes générées par les déplacements. Pourtant, de nombreuses disciplines sportives sont impactées par le changement climatique. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un invité d'exception, un ultra-trailer engagé, Xavier Thévenard. Hello Xavier.
Hello, merci pour l'accueil, c'est sympa.
Comment tu vas?
Bah écoute, ça va pas trop mal. Donc hâte de commencer l'échange par rapport à cette transition écologique qui est très importante ça, aujourd'hui.
Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore?
Donc Xavier Thévenard, j'ai 35 ans, je suis natif du Jura, je vis ici toujours, hein, et puis sur le massif du Jura, je suis moniteur de ski de fond, j'ai une formation dans les métiers du bois, j'ai aussi des diplômes en tant qu'éducateur sportif, et puis j'ai pu aussi vivre un peu de ma passion de l'ultra-trail en tant que coureur à pied, hein, avec mes 2-3 résultats. Donc je suis coureur chez On Running, voilà, et puis j'ai d'autres partenaires qui m'aident aussi, comme Baou, Organic Nutrition, qui est basé à Annecy, et puis Julbo aussi, l'aide Lancer, donc voilà.
Alors toi, tu es une personne justement très impliquée dans la sensibilisation à la transition écologique. Y a-t-il eu un événement, un moment marquant qui t'a poussé à adopter ces engagements ?
Moi, j'ai toujours été un peu militant avec des sensibilités au niveau de l'écologie. Après, en grandissant, j'ai compris un peu comment fonctionnait notre monde et puis ça s'est accentué au fil du temps. En fait, j'ai été éduqué dans un environnement très, très nature au plan d'automne. C'est une petite station de ski au sud du massif du Jura. Et puis là, avec mes frangins et mes frangines, on était en toute nature. Donc forcément, on comprend un peu comment fonctionne ce monde-là. On est tout de suite un peu plus sensibilisé, quoi. Et c'est venu en grandissant. Et puis, après, j'ai eu peut-être des décisions assez fortes pour diminuer mon empreinte carbone au fil des années, et dont celle de ne plus prendre l'avion, décider de ne plus prendre l'avion, qui a été assez médiatisée, on va dire, alors que ce n'était pas du tout une volonté, hein, au début. Mais bref, j'ai eu des moments, des petits déclics au fur et à mesure des années par rapport à la compréhension de notre monde et vers quoi on s'orientait. C'est accentué. Et encore aujourd'hui, je me documente et certainement que à l'avenir, il y aura d'autres prises de décision pour, encore une fois, diminuer mon empreinte carbone.
Et est-ce que toi, donc tu es un ultra-trailer, est-ce que toi, dans ta pratique, dans ta discipline sportive, tu as ressenti un petit peu le changement climatique?
Ah bah ouais, complètement. Là, aujourd'hui, c'est clairement, clairement visible. Je veux dire, on est au mois de février, là, pas plus loin qu'hier, je suis allé courir. Je suis dans le Jura, je suis à 1250 mètres d'altitude. Hier, à 1350 mètres d'altitude, on trouvait des primes vertes au mois de février. Je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et les champs, ils sont verts, parce qu'il n'y a pas de neige, malheureusement. Et ça, c'est assez hallucinant, la douceur qu'il fait, quoi. Et on voit bien qu'il y a un phénomène, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Entre les feux de forêt qu'on a eus sur l'été 2022, ça faisait poser des questions, hein. Le Jura, c'est quand même une forêt qui est réputée pour être fraîche et humide. D'avoir des feux de forêt, jamais je pensais voir ça de ma vie un jour. Et là, ça se produit. Donc, ça fait vraiment réfléchir. Tous les arbres qui sont scolités, qui sont séchés sur pied du fait de la sécheresse et puis du fait de l'invasion des scolytes, ça aussi, c'est assez hallucinant de voir ça à l'évolution, quoi. Et puis, le manteau neigeux qui est vraiment réduit à peau de chagrin au fur et à mesure des années. Alors, des fois, ça peut tomber une bonne précipitation, mais voilà, c'est le oscillement entre des températures qui peuvent être très froides par moment et puis on chope plus 15 degrés en un rien de temps. Alors qu'avant, j'ai l'impression que c'était quand même plus régulier. Puis si on regarde les photos d'antan, moi j'ai toujours été dans le Jura, ces altitudes entre 1000 et 1250 mètres. Bah nous, il nous arrivait quand on était gamin de monter sur la voiture des parents sans le savoir parce qu'il y avait tellement de neige que ça avait recouvert la voiture. Ça, c'est des images qu'on n'a plus vues depuis des années et des années, quoi. Donc, ouais, on voit l'évolution, c'est clair, hein, entre les sécheresses et tout. Puis bon, après, quand on est sensible à ces sujets-là du dérèglement climatique, on connaît les températures, comment ça évolue d'année en année. Donc, voilà, tout ce que nous dit le rapport du GIEC, tout ce que nous disent les scientifiques, ben, on voit bien que ça se produit, quoi. Et ça va continuer malheureusement à se réchauffer. Donc, maintenant, nous, notre but, c'est justement d'arriver à atténuer ce réchauffement climatique au travers de nos actions. Et tous ensemble, on peut arriver à faire de belles choses, je pense.
Exactement. D'où l'objet un petit peu de ce podcast, de un peu comprendre quelles sont les belles initiatives qui sont mises et effectuées pour contrer un petit peu ce réchauffement climatique. En parlant de mesures, alors toi, quelles ont été en fait les mesures que tu as pu prendre au cours de ta carrière sportive, mais aussi un petit peu personnellement, toi dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu as mis en place?
Alors ouais, en fait, avant d'avoir pris vraiment des actes forts, j'ai compris les ordres de grandeur. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose d'essentiel de bien comprendre vers quoi on doit aller comme mode de vie pour respecter les accords de Paris et respecter pas aller à un réchauffement planétaire au-dessus de 2 degrés. Parce que plus de 2 degrés de réchauffement planétaire, ce serait clairement dramatique. Mais je pense que on va malheureusement y avoir droit. Mais bon, il faut arriver à se tenir dans ce plus de degrés-là et pas dépasser au-dessus. Du coup, comme j'ai compris les ordres de grandeur à peu près, je sais quels sont les leviers d'action qui permettent de diminuer mon empreinte carbone. Et par exemple, si j'ai décidé de plus prendre l'avion, c'est que clairement, l'impact de l'avion sur le bilan carbone, il est énorme, quoi. Un trajet, quand on fait Paris-New York, par exemple, en aller-retour, c'est des tonnes de CO2 par an par personne. Pour donner une idée, les accords de Paris, l'idée, c'est donc de respecter, d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et de ne pas dépasser le réchauffement planétaire au-delà de plus 1,5 degré. Bon, un plus 1,5 degré, on va y avoir droit. Mais pour ça, il faut que chaque individu soit à 2 tonnes de CO2 par an par personne. Quand on fait un aller-retour, comme je viens de le dire, Paris-New York en avion, on a déjà fait 2 tonnes. Donc après, le reste de l'année, on n'a plus qu'à se mettre à la diète. Mais du coup, il y a des leviers d'action dans nos modes de vie qui sont beaucoup plus, qui permettent de faire vraiment diminuer son empreinte carbone. Et moi, c'est pour ça que j'ai décidé de plus prendre l'avion. Après, j'ai les déplacements en vélo, par exemple, en déplacement doux, en train, à pied, c'est quelque chose qui fait aussi beaucoup diminuer l'empreinte carbone. Et puis après, il y a tout ce qui est au niveau de la nourriture. Si on a une alimentation plutôt bio, plutôt sans viande de bœuf, par exemple, ou voilà, il y a plein de choses qui permettent de diminuer ça, et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Là, je suis en train de retaper une vieille ferme dans le Haut-Jura. Tout est réfléchi justement pour essayer de faire en sorte qu'on n'a pas une grosse empreinte sur l'environnement. C'est une rénovation, c'est pas une maison neuve déjà. On essaie d'isoler de la manière la plus saine possible avec des matériaux naturels de la paille, on a mis de l'argile, du bois, de la chaux, tous ces matériaux-là qui, une fois sont détruits, finalement, on peut les mettre dehors et puis ça sera biodégradable, quoi. Ça n'a pas une grosse empreinte sur l'environnement, sur la biodiversité aussi. Et voilà, c'est beaucoup de réflexion pour essayer, encore une fois, d'avoir un impact minimum sur la planète, parce que comme on n'est que de passage, il faudrait quand même laisser des choses sympas à l'avenir pour ceux qui nous précéderont, quoi. Donc, j'essaie de réfléchir un peu à tout ça. Et puis, voilà, ce qui me procure du bonheur, encore une fois, je le dis souvent, c'est d'aller courir en montagne d'arriver à avoir une belle symbiose, on va dire, entre l'effort physique et la contemplation des beaux paysages. Et ça, je trouve que c'est très fort. Et voilà, de prendre trop souvent de vol à l'avion, j'étais plus à l'aise parce que je connaissais les ordres de grandeur et en fait, je participais à la détérioration d'un environnement qui me procure du plaisir et du bonheur. Donc ça faisait plus sens, c'est pour ça qu'il fallait que je mette du sens dans ma pratique. Voilà, il y a des choix qui sont faits petit à petit, mais après, ça, encore une fois, ça concerne que moi, hein. Je dis pas il faut faire comme ça ou comme ci, Je ne suis pas du tout exemplaire, hein, je suis encore plein de contradictions, mais voilà, j'essaie d'être en accord avec mes valeurs. Et alors, il faut trouver le bon équilibre, mais voilà, je mets des actions sur le fait que bah, le soir, je peux dormir un peu plus avec ma conscience, quoi.
C'est vrai que finalement, le secteur du transport, c'est l'un des plus polluants. Il représente quand même 15% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, principalement générées par les flux aériens. Donc c'est quand même quelque chose, et c'est assez remarquable pour un athlète voilà, de prendre l'avion. Toi, est-ce que t'as ressenti de la frustration justement en déclinant peut-être des opportunités de participer à certaines courses à l'étranger?
Bon, pas tant en fait, c'est aussi pour ça que finalement j'ai trouvé mon compte, c'est que en faisant ce choix-là, et ben j'ai vu tous les avantages qu'il y avait, à savoir pas de temps à passer dans les aéroports inutilement, passer plus de temps avec mes proches, le coût du billet qui est quand même qui a un certain coût quand on fait des longs trajets, donc ça c'est toujours ça de gagner. En plus, ben, ça fait, voilà, je me dis, ben, quelque part, je contribue à un monde meilleur pour l'intérêt général. Et puis, en fait, je trouve que des avantages. En plus, voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, je suis de l'ultra. L'ultra, si on fait deux, trois courses dans l'année, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas des circuits très structurés encore, comme ça peut être dans beaucoup de disciplines, avec des circuits Coupe du Monde qui obligent les athlètes à aller à droite, à gauche, à l'autre bout de la planète, comme c'est le cas dans beaucoup de disciplines. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui peut faire ça, bah, finalement, moi j'ai la possibilité, parce qu'en plus, j'ai la plus grosse course à côté de la maison, la plus grosse course autour du Mont-Blanc, à la 2 heures en voiture, à 5-6 heures en vélo. Donc, en fait, j'ai toutes les possibilités pour le dire, j'arrête de prendre l'avion, quoi. Et mes partenaires me suivent. Donc, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. S'il y a bien un qui peut le faire, ben, c'est moi et je me réjouis de le faire. Et puis, aucune frustration par rapport à ça. Et encore une fois, je me dis, jusqu'à pas si longtemps en arrière, très peu de Français prenaient l'avion. Et c'est quelque chose, en fait, on ne se rend pas compte, mais quelque part, on peut être quelque part des privilégiés. Et bientôt, ça va s'arrêter, malheureusement, parce que l'aviation est née avec le pétrole. Il mourra avec le pétrole, comme dit Jean Covici. Et on sait que le pétrole, ça touche à bientôt à sa fin. D'ici 2050, la production de pétrole, elle sera moitié moins qu'aujourd'hui. Et nous, en France, on n'est pas producteur de pétrole. Donc, nous, ce sera peut-être 18, 20 fois moins. Mais forcément, il n'y a rien aujourd'hui qui peut remplacer. On parle de l'hydrogène et tout. Mais il faut écouter encore une fois Jean Covici. L'hydrogène, ça sera impossible de pouvoir remplacer tout le parc au niveau de l'aviation, avec de l'hydrogène ou avec des biocarburants, comme certains politiques le prétendent, c'est clairement impossible. Soit on décide de manger, soit on décide de nourrir nos avions au biocarburant, mais il va falloir faire un choix. Et donc, on sait très bien que l'aviation va mourir avec le pétrole. Et comme on n'en a bientôt plus, ben, va falloir retrouver des choses un peu plus essentielles.
Mais finalement, toi aussi, avec toute la communauté qui te suit, grâce aux différentes courses que tu as fait et ton palmarès, ça permet mine de rien quand même de faire passer un message, qui est relativement important.
Ben, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez surprenant. En fait, on voit bien que dans la société, ben, les sportifs, ils sont assez audibles, ils sont bien vus, ils ont une belle image, contrairement aux scientifiques qui sont pas du tout écoutés. Et pourtant, c'est eux qui sont compétents sur la question, c'est eux qu'on devrait écouter, qu'on devrait médiatiser. Et malheureusement, bah alors peut-être un peu plus, de plus en plus, mais pas assez encore. Et nous, on est finalement des relais et il faut arriver à transmettre ces messages-là parce que on est plutôt audible, on a une certaine communauté. Et Valérie Masson-Delmotte du GIEC nous dit les sportifs, allez-y, prenez la parole sur ces sujets-là parce que nous, on n'y arrive pas. Et effectivement, je pense qu'il y a vraiment des choses à transmettre. Avec des sportifs, des artistes, voilà, tous ceux qui sont, on va dire, plutôt audibles dans la société.
Exactement. Donc, si on revient un petit peu rapidement sur ton palmarès qui est relativement grand, donc gagnant de l'UTMB en 2013, 2015, 2018, deuxième en 2019, gagnant de l'OCC aussi en 2016, premier aux 80 km du Mont-Blanc en 2017, premier aux 90 en 2019. Bref, la liste est encore très longue. Alors, lors de ces différents événements auxquels toi, tu as pu participer, à quel point, en fait, cette dimension de durabilité, elle a été prise? Est-ce que tu as senti une évolution, une progression, ou au contraire, peut-être que cette question de durabilité était moins présente d'année en année?
Ouais, j'ai envie de dire que j'ai attaqué le trail. J'ai eu mes premiers gros résultats en 2010. Donc, j'ai vu un peu forcément l'évolution où il y a vraiment eu un bel engouement pour la discipline avec de plus en plus de participants, de plus en plus de courses. Et puis, beaucoup de marques qui sont venues aussi sur le marché du trail. Avant, souvent, ils disaient une marque de nutrition, quelques marques d'équipementiers et textiles. Les deux chaussures, quoi, et puis aujourd'hui, ben, c'est la folie, quoi, tout ce qu'il y a, et on voit bien qu'il y a quelque part beaucoup de gens qui sont intéressés par la discipline. Alors, d'un côté, ben, on pourrait se dire, est-ce que c'est très bon? On rentre dans le jeu de la société de consommation qui, on sait bien, hein, qui est délétère, et moi, je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça parce que aujourd'hui, c'est des marques qui me font vivre, donc je suis très conscient du problème Forcément, alors d'un côté, je ne vais pas cracher dans la soupe, ça me fait vivre. Mais d'un autre côté, ben, on voit bien que cette société de consommation, elle a un impact qui est quand même bien néfaste sur l'environnement. D'un côté, je suis assez partagé parce que je me dis, ouais, le fait qu'il y ait du monde qui pratique le trail, c'est top parce que ben, c'est quand même une activité qui est simple, quoi. On ne va pas faire de la Formule 1. Les gens, ils vont dans des univers fantastiques, incroyables, avec une certaine biodiversité, une belle nature. Et si ça peut les sensibiliser à ce milieu-là, qui est quand même assez fragile, ben peut-être qu'ils prendront des décisions dans leur quotidien pour préserver cet environnement-là. Et puis d'un autre côté, ben quand on voit un peu ces événements de masse qui sont de plus en plus importants ou qui nous obligent un peu à aller sélectionner à l'autre bout de la planète pour participer à une grosse course. Là, je me dis, ça tourne pas dans la bonne direction. Et puis, il faut un peu revoir nos façons de faire pour justement essayer, si on veut continuer à pouvoir courir et puis à se faire plaisir dans la nature, il va falloir qu'on se calme clairement parce que ce train-là, il va plus être possible tôt ou tard. Et si on continue à toujours vouloir augmenter le nombre de participations et de courses, de transport à l'autre bout de la planète, et ben on va de plus en plus dans le mur, et là, à un moment donné, ben on va se priver clairement de nos choses qui nous faisaient plaisir, quoi. Donc, il faut arriver à prendre conscience de ça, et puis est-ce que c'est opportun d'aller prendre l'avion tous les 15 du mois parce que ça participe à la progression dans mon planning d'entraînement, et puis arriver à être en forme sur une course. Voilà, il y a plein de choses à poser comme question, et la première chose, c'est vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut continuer à doubler de volume chaque année, à augmenter ses distances, à faire encore plus de trail, ou essayer d'avoir quelque chose de plus linéaire et puis sur du long terme, et puis à pouvoir se faire plaisir sans détériorer l'environnement.
C'est vrai que ça me fait un peu penser notamment aux JO asiatiques d'hiver en 2029 ou à la Coupe du Monde au Qatar. Parfois, on se demande pourquoi finalement est-ce qu'on continue d'organiser des JO, des événements mondiaux dans des endroits qui sont finalement inadaptés.
Ben ouais, c'est clair. Et puis encore une fois, et ça, c'est pas assez médiatisé, c'est par rapport à la contrainte d'énergie fossile. On sait qu'il va nous en rester, mais pas autant que ce qu'on le croit. Le pic pétrolier est déjà passé, le gaz, le charbon aussi, c'est passé. Donc maintenant, on sait la quantité finalement qu'il nous reste à faire. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide d'amener vraiment une transition écologique forte pour avoir un confort de vie assez sympa sans émettre trop de gaz à effet de serre et puis construire des infrastructures solides dans le temps qui nous permettent d'avoir une vie sympa et que ça soit pas trop bah, voilà, énergivore ou est-ce qu'on décide de continuer notre mode de vie, de foncer droit dans le mur et sans prêter attention à toutes ces notions-là parce que aujourd'hui, le sport dans la société, ok, on arrive à le pratiquer, on a du temps libre pour faire parce que les machines ont remplacé le boulot des humains et les machines, elles tournent aux énergies fossiles. Dans un monde avec une contraction en énergie fossile, quelle aura la place du sport dans notre société? Ben, je ne suis pas sûr que ça sera une priorité. avec un monde qui se réchauffe à plus de 2 degrés, à plus 3, plus 4, j'imagine même pas, mais bref, et puis avec des contraintes d'approvisionnement en énergie fossile, ce qui n'est pas plus mal quelque part, parce qu'on ne va pas émettre de gaz à effet de serre, moins déjà, ben, je ne suis pas sûr que en fait, le sport sera une priorité, parce qu'il y aura tellement un état d'urgence autre qu'on aura plutôt la tendance à... La priorité, ce sera peut-être se nourrir correctement, se loger, se soigner, d'avoir des relations humaines plutôt que de devoir faire son sport et puis de se préparer à des courses. Je ne suis pas sûr que ça ce soit... Je ne sais pas, hein, personne ne peut vraiment savoir ce qui va se passer, mais moi, je me pose beaucoup cette question. Est-ce que les grands événements comme les JO, comme ben, voilà, des grands événements qu'on a aujourd'hui en trail et en autres, est-ce que ça sera encore envisageable à l'avenir avec la situation urgente qu'on aura à gérer ces prochaines années? En fait, je pense que ça va se faire progressivement, mais on va mettre les priorités aux endroits et pas forcément dans la pratique de loisirs et de sport, quoi. Je dis ça, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Mais à mon avis, c'est ce que nous disent tous les scientifiques, les personnes compétentes sur la question, et on sait vers quoi on se dirige. Donc, quelque part, les JO, tous ces grands événements, je ne suis pas sûr que ça existera encore bien longtemps, quoi.
J'imagine que si c'est un sujet que tu as déjà abordé avec le ministère des Sports, toi, tu es fresqueur, donc animateur de la fresque du climat, une activité de sensibilisation en fait aux enjeux climatiques. Et j'avais vu que toi, tu avais animé justement une fresque l'année passée au ministère des Sports. Et voilà, est-ce qu'il y a eu quelques échanges qui ont été finalement intéressants? Selon toi, sur quels axes il faut-il agir en priorité?
Ouais, c'était très intéressant. En fait, c'était l'année dernière, effectivement, avec un ami, on avait fait une fresque du climat donc au ministère des Sports avec donc la ministre et puis tous ses collaborateurs et collaboratrices. C'était super parce qu'en fait, on s'est rendu compte à quel point ils étaient très sollicités et qu'ils n'étaient pas forcément formés, informés du sujet. Et quand, juste au début d'une fresque du climat, on leur demande de s'auto-évaluer un petit peu sur leur connaissance par rapport au dérèglement climatique, donc une note de 0 à 10, 0, on est vraiment novice, on n'a jamais entendu parler de GIEC ou de dérèglement climatique, et puis à l'inverse, 10, on est vraiment expert en la matière, on est scientifique du GIEC. Et donc, à notre grande surprise, on a eu des personnes qui nous ont dit 7, 8, 9, 9 sur 10, hein, c'est déjà on a certaines compétences, hein, sur le sujet. Et puis après, ben, on a commencé à animer la fresque, à donner les ordres de grandeur. Donc ça se fait en deux parties, hein, la fresque, on a 1 heure et demie sur l'atelier où on essaie de mettre les interactions entre les cartes, quelles sont les relations de cause à effet. La première, c'est les activités humaines, et puis il y en a plein qui en découlent. Et on voit bien que ben, ça va vraiment dans le dur de plus en plus. Bref, et puis derrière, après, on a une deuxième partie, 1 heure et demie, où on apporte des solutions, les ordres de grandeur, etc. Et durant cette fresque, donc on a appris aux personnes du ministère qui est le fondement des accords de Paris, vers quoi il fallait se diriger pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, à combien de tonnes un individu ne devait pas émettre par an par personne pour respecter bah, justement ces accords de Paris et ne pas avoir un réchauffement planétaire à plus de 2 degrés. Et ces notions-là, bah, ils ne les avaient pas. Et en fait, bah, voilà, ça nous a mis un petit froid parce que, en fait, on s'est dit, bah, en fait, c'est eux qui sont quand même censés nous diriger et qu'ils n'aient pas ces notions hyper importantes. Hein. Ben, on se dit, ouais, en fait, on a vraiment un gros, gros travail à faire au niveau de la sensibilité, la pédagogie, amener le sujet sur la table parce que ça nous concerne tous. Et puis, c'est pas nous seuls dans notre coin qu'on va régler le problème du dérèglement climatique, c'est nous collectivement. Alors, dans son coin, on peut faire plein de choses, hein, il y a plein de choses à mettre en place, mais collectivement, c'est tellement un gros chantier. Donc, je pense qu'avant de. Ouais, je pense qu'il faut vraiment arriver à faire comprendre les gens vers quoi il faut aller, se diriger pour qu'on ait tous un avenir sympa à l'avenir, quoi. C'était une expérience sympa, mais une expérience assez douloureuse quelque part parce qu'on avait on pensait qu'ils étaient quand même un peu plus au point par rapport à ces notions de dérèglement climatique, quoi. Et je pense que dans les autres ministères, à mon avis, c'est un peu la même chose, quoi.
Pas toujours évident de rester positif sur l'avenir.
Ouais, si. Ouais, c'est sûr que ça fait ça fait un peu peur. Mais bon, il faut encore une fois essayer de faire des fresques et puis d'essayer de faire comprendre le sujet au plus grand nombre pour qu'il y ait une prise de conscience, puis un passage à l'acte. Et je pense que, après, c'est peut-être mon côté optimiste, mais je pense que ça peut aller assez vite parce que quand on regarde comment on est foutu, en fait, dans la société, en fait, on fait tout le temps pareil que le voisin, que la grande sœur, que les parents. En fait, on mime, quoi. On est des êtres de mimétisme. Et si aujourd'hui les codes dans la société, c'est de se déplacer en vélo, c'est trop cool, ou de faire son jardin, c'est une connotation favorable, c'est ancré et c'est bien vu, bah, tout le monde va vouloir mimer ce modèle. Et là, peut-être que ça va faire effet boule de neige et qu'on va arriver à amener une vraie transition écologique. Et je pense que ça peut aller assez vite si on pointe du doigt ceux qui prennent l'avion trop souvent dans l'année. On dit, mais t'imagines, c'est tellement destructeur pour l'environnement, mais même pour nous, finalement, hein, ça nous détruit à petit feu. De se déplacer en grosse bagnole, est-ce que c'est encore très, très normal? Bref, et je pense que si ça, c'est un peu plus pointé du doigt, et puis qu'on change nos imaginaires de façon collective, ça peut aller assez vite. Mais encore une fois, il va falloir changer les codes.
Exactement, et ensemble, ça c'est clair. Et ben merci en tout cas Xavier pour ton temps. Toi, quels sont un peu tes prochains projets environnementaux ou sportivement parlant?
Et bien là, à court terme, je fais une fresque du climat la fin de la semaine prochaine. Pour le DU Trail à l'Université de Franche-Comté. Et puis sinon, je suis en train toujours dans mes travaux de rénovation de maison. Donc ça me prend pas mal de temps. Puis l'idée, ben voilà, c'est d'accueillir du monde parce qu'on crée de la location des gîtes à côté. C'est une vieille loge, donc 2663, donc c'est terminé les travaux pour accueillir nos premiers hôtes en 2025. Voilà, c'est surtout ça la priorité. On a les stages de ski aussi, on a fait un premier stage de ski là sur février, on en a un deuxième sur le mois de mars. Donc voilà, c'est que ces stages se passent bien dans la bonne ambiance. Et puis pour le moment, c'est ça, et de retrouver la santé après, ça c'est la priorité des priorités. Voilà.
C'est clair. En tout cas, on souhaite tous un beau rétablissement et bon courage dans
Merci.
tous ces projets. Et
Merci.
pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et continuer à suivre ton quotidien de sportif engagé, on mettra ton Instagram et toutes tes références dans la description de ce podcast. Quant à moi, je vous remercie, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura informé et qu'il vous aura aussi inspiré. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!
Merci d'avoir écouté cet épisode.
S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le partager autour de toi. Cela nous soutient énormément.
Tu peux aussi nous faire un retour en nous laissant un avis.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
À très vite.